une histoire particulière. En décembre 2010, on pouvait lire dans la presse une petite annonce immobilière. Vend ensemble, situé à une quarantaine de kilomètres de Paris, composé d'un hectare de parc dominant la vallée de la Seine, de presque 550 mètres carrés habitables, ainsi que d'une maison de gardien, et qui a grandement besoin d'être rafraîchi. Futur acquéreur, prévoir travaux. Avec une mise à prix fixée à 735 000 euros, les enchères qui ont mis en concurrence trois acquéreurs potentiels ont été remportées pour la somme de 915 000 euros par un particulier qui souhaite faire du château un usage personnel pour lui et sa famille. Aujourd'hui, Romain Weber et Yvon Croisier vous racontent la vie de château de son ancien propriétaire, l'empereur Jean Bédel Bocassa.
La Centrafrique, comme... Disons, c'est un nom dont on nous a affublé là. Donc, on est presque au centre de l'Afrique. Et c'est un pays qui a un sous-sol très riche, une faune très riche, mais c'est l'une des populations les plus pauvres et les plus massacrées. Nos richesses sont devenues notre malheur, parce que c'est ça qui attire beaucoup les convoitises. Donc, pour les gens qui veulent s'accaparer les richesses, qui veulent s'accaparer le pouvoir, la vie de la population n'est pas importante.
Yvonne Metengeme, vous êtes franco-centrafricaine. De quoi est-ce qu'elle vit la Centrafrique ? C'est quoi les richesses dont vous parlez ?
Elle ne vit de pas grand-chose. Hein. Mais elle possède des diamants à profusion, hein, d'où l'histoire célèbre. C'est ça qui nous a rendu tristement célèbres. Beaucoup de diamants, de l'or, de l'uranium. Mais la Centrafrique, elle vit curieusement on ne peut pas dire de mendicité vraiment, mais c'est un peu ça. Que de l'aide. Et de la communauté internationale qui vient, qui décide beaucoup de choses. Et puis, on tend la main pour payer tout le monde. Donc, la population est très l'une des plus pauvres au monde. Et très décimée. Parce que la Centrafrique aussi grand que la France et la Belgique, je pense, réunies, hein, puisqu'elle fait 623 000 km² pour à peine 5 millions d'habitants. Donc vous voyez, ça fait qu'on n'est pas assez nombreux pour gérer tout ça.
République centrafricaine, Bangui.
Janvier 1966.
Jean Bédel Bocassa a renversé le président Dacko dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Qui aurait pu deviner qu'un putsch allez, interrompre les réveillons.
J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin Germain, mon colonel ?
L'intérêt national prime le sentiment familial.
Ce pouvoir, mon colonel, entendez-vous le conserver longtemps ou envisagez-vous de le restituer un jour aux civils ?
Nulle part au monde, un chef d'État ne peut garder longtemps le pouvoir. Ce pouvoir, j'estime le garder à la demande du peuple. Quand ce peuple me demandera de céder, je céderai ce pouvoir à quelqu'un d'autre, à un centrafricain, bien sûr.
Bocassa Ier, grandeur et décadence d'un soldat français. Yvon Croisier, Romain Weber. Première partie, la marche impériale. Jean-Pierre Batte, vous êtes historien, vous êtes archiviste, vous avez été chargé du fonds Focard aux Archives nationales. Dites-nous, qui est Jean Bédel Bocassa ?
Alors, c'est une vaste question. Pour l'opinion publique, ça reste l'empereur un peu ubuesque de Centrafrique, qui a été connu parce que Giscard a validé son sacre et qu'il l'a fait renverser 2 ans plus tard. Pour l'opinion française, c'est aussi celui qui amène le scandale de la France-Afrique avec l'affaire des diamants. Et puis, vu de Centrafrique, c'est une mémoire un peu plus compliquée puisque c'est à la fois un produit de l'armée coloniale et un des premiers chefs d'État qui a marqué d'une main assez autoritaire le pays et qui a malgré tout duré de 1966 à 1979 suffisamment longtemps pour laisser une empreinte structurante dans les esprits et dans l'idée du fait politique en Centrafrique.
Alors pour comprendre ce personnage-là, il faut d'abord comprendre ce qu'est la République centrafricaine. Qu'est-ce que c'est que ce pays ?
Alors la République centrafricaine, c'est l'héritier du territoire colonial de l'Oubangui-Chari. La République centrafricaine, c'est donc un État enclavé qui était baptisé la Cendrillon de l'Empire, c'est-à-dire l'un des territoires les moins bien considérés par l'administration coloniale, sur lesquels il y a eu le moins d'investissement. Et c'est un territoire qui, en 1960, accède à l'indépendance comme tous les autres, avec un certain intérêt de la France, parce que Paris veut absolument contrôler tous les chefs d'État de la sous-région. Preuve en est, la France y installe deux bases militaires, Bangui et Bouare, qui vont rester jusqu'en 1996-98, qui vont rester les grandes emprises militaires françaises en Afrique équatoriale.
Yvonne Metengeme, Bangui, la capitale de la République centrafricaine, ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à un petit village. Bangui, la capitale, n'est pas très, très, très développée. Pendant longtemps, nos dirigeants ont pris le fait qu'on soit enclavé pour justifier de la mauvaise gestion de ce territoire-là. Donc, Bangui, à Bangui, il manque tout. Il manque même, pour vous dire, de l'eau potable. Il y a un problème d'eau potable qui n'existe pas. Et ça fait que pendant la saison sèche, tout ça, vous allez voir la population qui va se balader avec des bidons vides pour chercher de l'eau. Donc, Bangui, c'est ça. Bangui, ça manque de tout. Donc, il y a le palais, il y a tous les fonctionnaires qui vivent, qui gravitent autour de cette fonction publique. Hein, donc, tous nos dirigeants, donc voilà. Bangui, c'est ça. Ça. On doit paraître comme les autres, même si on n'est pas comme les autres. Hein, donc, voilà.
Qui est Jean-Bedel Bokassa ?
Jean-Bedel Bokassa, ça a été l'un des pires dirigeants centrafricains pour moi. Donc Jean-Bedel Bokassa, ça me donne pas de bons souvenirs. Je sais pas. J'ai jamais aimé prononcer ce nom.
Patrick Rougelet, qui est-il Jean-Bedel Bokassa ?
Le personnage lui-même, ben, c'est un personnage de roman en quelque sorte, quelqu'un qui a cru à l'axiome que tout soldat avait dans sa giberne un bâton de maréchal, et il a fait même plus puisqu'il est devenu empereur par sa simple volonté. Alors évidemment, la presse, les circonstances de l'époque en ont fait un clown, c'est ce qu'il n'était pas. C'était un homme intelligent, mais enfin typique de cette époque, si vous voulez. C'est-à-dire, c'était la fin de l'époque coloniale, de ces populations qui ont été formées à notre école, en quelque sorte, qui avaient un véritable amour pour la France et qui, en même temps, se trouvaient projetées dans les indépendances où ils ont essayé de... Ils ont copié le colonisateur. Et finalement, Bokassa en est un des meilleurs exemples.
Alors Jean-Pierre Batte, Jean-Bedel Bokassa, né en 1921 dans l'Oubangui-Chari, qui fait partie de l'Afrique équatoriale française. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance à cet homme ?
Alors on en sait assez peu. On sait qu'il est orphelin. Sa famille aurait souffert justement les répressions des grandes compagnies concessionnaires. On sait qu'il est recueilli par les prêtres qui vont assurer son éducation, l'enverront à Brazzaville faire sa scolarité, et là, à Brazzaville, en 1939, il s'engagera dans l'armée coloniale. Alors, contrairement à une légende, il ne débarque pas en Provence, il passe toute la guerre de 39 à 45 en Afrique. En revanche, son expérience coloniale a ceci d'important dans l'armée coloniale qu'il va être projeté en Indochine où il découvrira vraiment la guerre et en Algérie où il finira par gagner des galons d'officier.
Alors regardez Jean-Pierre Batte, ce document que j'ai sorti des archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Alors c'était dans un carton qui porte le joli nom de 321 QONT58. C'est une note de l'ambassade française en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Alors, elle présente l'état civil, c'est une fiche biographique en fait. Et puis, on a notamment ses services accomplis dans l'armée française, où on voit 39 engagés volontaires pour 4 ans à Brazza, 40 première classe, puis caporal, 41 sergents, 44 sergents-chefs, 50 adjudants, 54 adjudants-chefs et surtout 56 sous-lieutenants, 58 lieutenants, 61 capitaines. C'est donc important de souligner que en 1961, il est encore officier de l'armée française, il est capitaine de l'armée française, et ce n'est qu'en 1962, au 1er janvier, qu'il est reversé à l'armée centrafricaine. Et clairement, Bokassa est casté pour devenir l'homologue de l'armée française en Afrique et en Centrafrique.
Colonel, vous êtes un militaire qui a une longue carrière déjà de soldat. Est-ce que vous considérez d'abord comme un soldat français ?
Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au Trésor français pour le paiement de ma pension. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Je suis de la famille française.
De Beyrouth à Gaza, d'Hanoï à Calcutta, de Sidi Bel Abbès au brûlant soleil de Meknès, l'encre d'or au képi, sans peur et sans répit. Quand il s'agit d'aller mourir, on y va sans frémir. L'as-tu vu, le fagnon de la coloniale, l'as-tu vu, le fagnon des coloniaux.
Il est l'un des rares officiers d'Afrique centrale, d'Afrique équatoriale française, et il est l'officier le plus gradé, de sorte qu'en 1960 et 62, avec la création de l'armée centrafricaine, il est reversé, et il en devient très rapidement le chef d'état-major. Mais alors, chef d'état-major d'une armée centrafricaine qui n'est pas vraiment dotée de moyens guerriers, eh bien, c'est une position paradoxale. Parce qu'en même temps, l'armée française va envoyer le général Bijard pour monter ce qu'on appelle le plan raisonnable, c'est-à-dire une armée pionnière, une armée qui serait plus une armée de développement qu'une armée militaire. Et on se retrouve ainsi avec une sécurité d'État qui échappe complètement à l'armée. Autrement dit, Bokassa n'est pas dans le premier cercle des sécurocrates du régime de David Daco entre 60 et 65. Ces sécurocrates, ce sont plutôt le chef de la gendarmerie et le chef de la police secrète, Mounoumbaï.
Ma tête a été mise en jeu parce que j'étais chef d'état-major. On a voulu me tuer. Comment on a voulu me tuer ? Parce que d'autres disaient que c'était moi qui devais faire le coup d'état. Pourquoi j'attendais longtemps ? Et moi, je leur disais non. Ici, chez nous, je ne peux pas faire le coup d'État. Parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle. Le président Daco est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'État alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Daco et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Daco, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Daco et la mienne. C'est ce que j'ai fait.
Jean-Pierre Batte, Jean Bedel Bokassa arrive au pouvoir en Centrafrique par un coup d'État. Le 31 décembre 65, le coup d'État de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'il est soutenu par la France ?
Alors non, pas de complicité française dans ce coup d'État. En revanche, très 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 vite, la nuit même, Bokassa veut rassurer la France parce que, en réalité, en France-Afrique, les coups d'État sont assez mal vus. Finalement, la France va finir par s'accommoder de ce coup d'État. Et ainsi, le colonel May, à la fin de l'année 66, va écrire les lignes suivantes sur Bokassa. Personnage discuté et jusqu'au 31 décembre 1965, à peine toléré dans ses fonctions de chef d'état-major de la Défense nationale, le colonel Jean Bedel Bokassa, 11 mois après le coup d'État, est aujourd'hui le maître incontesté de la RCA et il a bien l'intention de le rester. Aussi j'incline à penser que l'intérêt de notre pays est, malgré tout, de faire en sorte que le colonel Bokassa reste au pouvoir aussi longtemps qu'il sera demeuré suffisamment raisonnable. Il y a donc petit à petit un consensus comme ça qui se fait autour du personnage. Consensus qui va se solder en mars 1969 avec l'intronisation officielle dans le cercle de la France-Afrique. C'est le voyage à Paris qui est vraiment l'adoubement par la France de Bokassa dans le cercle des chefs d'État du premier cercle de la France-Afrique.
Monsieur le Président, de tout cœur, nous nous félicitons de votre visite officielle en France. Et puis, nous recevons en votre personne la jeune République centrafricaine. Et enfin, Monsieur le Président, c'est vous que nous avons le plaisir de recevoir. Et nous avons des sentiments de grande amitié pour le chef d'État que vous êtes et de camaraderie éprouvée pour le vaillant officier qui combattit dans nos rangs d'une manière éclatante en Afrique, en Europe et en Asie.
Bokassa, il se fait donc adouber par la France du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est quelqu'un qui compte pour Jean-Baudel Bokassa.
Bokassa voulait l'appeler papa. Et de Gaulle n'aura de cesse gêné que de lui faire valoir qu'ils sont censés être homologues, que donc c'est entre chefs d'État qu'on ne peut ni avoir cette familiarité, ni avoir ce principe protocolaire de suggestion. Et donc à la fin de la conversation, Bokassa a bien compris, elle finit par appeler mon père. C'est très intéressant parce que très très vite, on voit qu'il y a une sorte de fébrilité affective dans les relations que Bokassa recherche d'abord avec De Gaulle, ensuite avec la France. Et effectivement, cette fébrilité des relations, elle prendra toute sa dimension lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrivera au pouvoir.
Jean-Pierre Batte, vous avez là devant vous un autre document qui vient des archives diplomatiques du Quai d'Orsay, qui est une lettre de Valéry Giscard d'Estaing envoyée à Jean-Baudel Bokassa en avril 1976.
Et donc le texte dactylographié, hein, comme le ferait n'importe quel secrétaire présidentiel. En revanche, ce qui est plus intéressant, ce sont les annotations manuscrites par Valéry Giscard d'Estaing lui-même. Dans la toute première phrase, « Monsieur le Président à vie, Valéry Giscard d'Estaing prend son stylo et rajoute « Et chers parents ». Et dans la formule de politesse finale, « Je vous prie de croire, monsieur le président, à vie et à l'assurance de ma haute considération », à nouveau Valéry Giscard d'Estaing reprend la plume et de sa propre main écrit « Et à celle du très amical souvenir de votre parent et ami, Valéry Giscard d'Estaing ». On imagine assez mal le général de Gaulle ou Georges Pompidou utiliser « chers parents », c'est-à-dire introduire une forme de familiarité dans des relations politiques de ce degré.
Yvonne Mettenguemme, vous semblez très touchée rien qu'à l'évocation du nom de Bokassa.
J'aime pas prononcer ce nom, j'aime pas entendre ce nom. Ça me fait tout drôle. Oui, oui, Jean-Baudel Bokassa, j'étais encore dans ma ville quand il a pris le pouvoir. J'étais petite, je ne sentais pas ça, j'ai pas vu venir. Et ensuite, je suis venue à Bangui pour continuer mes études. J'étais chez les sœurs à un moment donné, je dormais chez les sœurs, j'allais au lycée. Et puis bon, ça s'est bien passé jusqu'à... plus ou moins bien passé. C'est un régime un peu de dictature, pas un peu, de vraie dictature, et qui n'était pas facile, hein. C'était pas facile. Tout le monde se soupçonnait, tout le monde s'espionnait, tout le monde trahissait tout le monde, jusqu'à ce qu'il a décidé de devenir empereur.
C'est un dirigeant assez imprévisible. C'est un dirigeant autoritaire, et bizarrement, c'est un dirigeant qui essaye d'avoir une vision. À un moment, il lance le plan Bokassa, qui est une sorte de grand plan agricole. Mais en même temps, c'est un décideur qui oscille. C'est-à-dire qu'il ne se tient pas en permanence sur la tenue d'un plan. Il change parfois d'alliance. C'est ainsi qu'à partir des années 70, il ne va pas hésiter à faire des renversements d'alliance. On en parlait notamment à Tripoli et au colonel Kadhafi. C'est enfin un personnage qui a un profil psychologique tout à fait surprenant, qui est brossé à nouveau alors par les services de renseignement français, par le deuxième bureau, mégalomane, cyclotimique, trop facilement irritable et emporté, violent, tyrannique, autocrate, terrorisant son entourage, ses excès le rendent difficilement supportable.
C'est un dictateur, Jean-Baudel Bokassa ?
Oui, il a été mis dans cette catégorie. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est pas non plus Ceausescu ou Staline. Dès 72, la France laisse Bokassa devenir président à vie. En 74, maréchal. Donc, Bokassa est clairement dans une tentation autoritaire qu'il parachève en 76 en se proclamant empereur. Alors, le sacre a lieu le 4 décembre 1977. La date, qui n'est pas forcément évidente au premier abord, est en fait une référence au 2 décembre, qui est la date du sacre de Napoléon. Donc, très clairement, Bokassa, après s'être nommé empereur en 1976, va vouloir obtenir un couronnement, enfin, au départ, il va obtenir un sacre directement inspiré de celui de Napoléon Ier. La France est activement sollicitée par Bokassa pour fournir énormément d'encadrement. Alors ainsi, on voit obtenir des garanties COFAS pour l'achat de véhicules. Et il décline 211 véhicules Peugeot, 74 véhicules Renault, 25 CX Citroën, etc. etc. Bon. Ensuite, l'allocation de plusieurs transals de l'armée de l'air pour le transport du carrosse et des chevaux blancs. Ensuite, l'aide technique en matière de protocole. L'assistance technique dans l'organisation du défilé militaire. Ensuite, l'admission en France des diamants de la couronne en importation auprès de la maison Artus Bertrand pour qu'elle puisse monter la couronne et le sceptre. Plus une demande ayant trait à des stagiaires pour le haras du pain pour que, si vous voulez, la garde impériale apprenne à monter à cheval. À défaut de Notre-Dame, ça va être le palais des sports de Bangui qui va être transformé en grande salle avec un trône. Bon. C'est pas tout à fait un sacre, parce que quand même le Vatican est très mal à l'aise, et en réalité, le Vatican n'accorde pas l'onction pour que ce soit un sacre. C'est un couronnement où Bokassa va se ceindre lui-même, comme Napoléon, la couronne impériale, et Bokassa va donc se mettre en scène un peu tout seul. Et c'est cet aspect décalé qui va énormément interroger le chorégraphe lorsqu'il est interrogé, va répondre, mais pourquoi ça vous choque pas quand c'est la reine d'Angleterre et ça vous choque quand c'est en Afrique?
Il était plus de 10 heures ce matin lorsque le carrosse impérial est arrivé au palais du couronnement, accueilli par les militants du Parti unique centrafricain, le Maisan. C'est d'abord le petit prince Jean-Baudel Bokassa Junior, 2 ans et demi, qui pénètre dans le palais, habillé de blanc, brodé d'or, baudrier rouge, casquette. Ensuite, l'impératrice Catherine, robe longue, pailletée d'or et de rubis. Enfin, l'empereur Bokassa Ier, en aube blanche, une aube constellée de perles et d'or.
Sa Majesté, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique.
Alors, le couronnement proprement dit commence. Le petit prince s'assied et se lève lorsque... on lui fait signe. Les officiers supérieurs apportent l'épée. 9 lieutenants présentent le manteau de velours rouge brodé d'or et bordé d'hermine. Puis la couronne rouge et or sertie de 100 diamants surmontée d'une énorme pierre de plus de 100 carats. L'empereur se lève ainsi que l'impératrice Catherine et le petit prince. Il prend la couronne, la pose sur sa tête et devient ainsi le premier empereur centrafricain, le seul empereur de l'Afrique d'aujourd'hui. Depuis le renversement d'Haïlé Sélassié en 1974. Les officiers apportent le sceptre, immense lui aussi, toujours serti de pierres précieuses, et c'est le serment sur la Constitution.
Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du parti politique national, le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain.
Dans l'esprit de plusieurs responsables de la politique africaine de la France, faire de Bokassa un empereur de Centrafrique, c'est aussi inviter Bokassa à avoir tous les honneurs pour s'installer à Berengo, à 80 km de la capitale Bangui, et ainsi laisser beaucoup plus les mains libres au Premier ministre pour mener une politique, sinon raisonnable, du moins contemporaine. C'est en tout cas l'idée globale que conservent plusieurs responsables de la politique africaine. Là où on peut s'interroger, c'est que en conférant plus de pouvoir et de dignité à quelqu'un, il est très compliqué de supposer qu'il va y avoir cet effet d'abandon politique. C'est au contraire l'inverse qui s'est produit.
Jean-Pierre Batte, regardez là, c'est un autre document qui vient des archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Et c'est une note de l'ambassadeur, qui s'appelle Robert Piquet, qui a une sacrée plume.
Le dernier paragraphe de cette correspondance est le suivant. « Depuis bientôt 12 ans, Bangui est le théâtre d'un spectacle tragicomique dont, parfois amusé mais le plus souvent inquiet, nous suivons avec attention les péripéties. On peut cependant se demander si, déjà, le héros n'a pas poussé trop loin son avantage, car le public est là, pour ne pas dire plus, d'un spectacle qui, depuis le jour de l'an de 1966, est représenté au seul bénéfice, ou presque, du premier rôle.
C'était la première partie de Bokassa Ier, grandeur et décadence d'un soldat français. Avec Yvonne Metengue-Meux, Jean-Pierre Batte et Patrick Rougelet. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre et avec la collaboration de Quentin Vaganet. La marche impériale, Yvon Croisier, Romain Weber.
La suite du documentaire sur l'empereur Bokassa Ier, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, 14h, nous retrouvons Antoine Guillot pour votre séance cinéma.